France Culture.
Tous les jeudis, Entendez-vous l'écho dresse le portrait de celles et ceux qui ont pensé ou fait l'économie. Aujourd'hui, c'est à l'économie telle qu'elle se modélise et telle qu'elle se pratique au sein des institutions faites pour cela que nous allons nous intéresser. Agnès Benassi-Quéré, aujourd'hui sous-gouverneur à la Banque de France, passée par la Direction Générale du Trésor, mais aussi le Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, est notre invitée du jour. Son parcours raconte en creux la façon dont la fonction des économistes a évolué et est perçue au gré des crises. Des années 90 à aujourd'hui, l'économie mondiale se reconfigure, les institutions économiques en France et au niveau européen sont confrontées à des défis majeurs et la discipline elle-même est l'objet d'une réflexion intense sur sa légitimité et sa capacité à anticiper, analyser et même conseiller. C'est donc ce rôle des économistes et leur place dans la cité qui va être interrogé jusqu'à 15h au cours de cette émission programmée par Bruno Barada, préparée par Diane Devancet, réalisée par Françoise Le Floch est mise en onde aujourd'hui par François Saint-Jour. Agnès Benassi-Quéré, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous de l'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour l'heure qui vient. Vous êtes donc passé, on le disait brièvement, par le Conseil d'analyse économique, par la Direction générale du Trésor. Vous êtes actuellement à la Banque de France. Nous allons revenir sur le rôle de ces institutions tout au long de l'émission. Mais toutes ces institutions sont intrinsèquement liées à l'État. Le CAE conseille le Premier ministre. Le Trésor est rattaché au ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de France. Alors certes, est indépendante, on va revenir sur ce critère très important, mais elle est la propriété de l'État depuis sa nationalisation en 1946. Que nous dit finalement votre parcours au sein de ces institutions, de votre conception de l'utilité de la discipline économique? Que peut l'économie anticiper, réparer? À quoi sert-elle?
Ah, merci pour cette question. On rentre directement dans le vif du sujet. Entre parenthèses, je suis restée relativement longtemps au Conseil d'analyse économique, 5 ans. C'est pas tout à fait bref. Le temps de quand même à tout un cycle de notes et de découverte de certains replis de l'économie française qui m'ont beaucoup passionnée. Donc vous avez touché du doigt en fait ce qui un peu me passionne, ce qui est le fil conducteur depuis fort longtemps, qui est vraiment l'interface entre la recherche économique et la politique économique, enfin donc la décision dans différents domaines. Et ça m'a toujours beaucoup passionnée. À la fois donc de faire des recherches qui aient un intérêt pour les décideurs, mais aussi passer cette recherche et la rendre intelligible pour les décideurs sans la distordre, en étant très honnête, en essayant d'être très honnête par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on sait moins.
Davantage que les spécialistes d'autres sciences sociales, les économistes sont aussi impliqués dans la décision publique. Ils y sont prédisposés par leur discipline qui, construite à partir des années 30 sur des objets bien définis, l'entreprise, le consommateur, l'État et des grandeurs mesurables, leur a très tôt ouvert des places de choix auprès des décideurs. Comptabilité nationale, planification, prévision, simulation, tarification de l'électricité, rationalisation des choix budgétaires, etc. Elle leur a aussi apporté une confiance d'ingénieur, voire un sentiment de supériorité par rapport aux autres sciences sociales. Cette confiance d'ingénieur qui est évoquée dans une note publiée dans le cadre du fameux CAE en juillet 2017 et dont vous êtes la co-autrice avec Olivier Blanchard et Jean Tirole, est ce qui explique la place des économistes auprès des décideurs. Est-ce pour autant ce qui la justifie, Agnès Benassi-Quéré? En somme, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'économie en tant que science?
Alors Esther Duflo a une très bonne comparaison, je trouve. Elle compare l'économiste, elle dit que les économistes devraient être moins des ingénieurs, plus des plombiers. Donc le plombier arrive effectivement avec une boîte à outils et il dit où est-ce que ça fuit, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et alors Keynes comparait les économistes, souhaitait que les économistes soient humbles comme des dentistes. Alors, je ne sais pas si les dentistes sont spécialement humbles, mais en tout cas qu'ils aident à régler des problèmes. Et c'est vrai que dans les sciences sociales, c'est assez particulier. Dans les autres sciences sociales, on décrit beaucoup avec minutie la société telle que elle est, telle qu'elle évolue, mais on ne cherche pas pas nécessairement à la changer. Et les économistes ont une tendance hein, toujours à vouloir améliorer les choses selon ben, justement des métriques qu'il faut effectivement définir. Et je pense que dans la relation entre le chercheur et le décideur de politique économique, le chercheur doit faire très attention de ne pas se substituer. Et donc, ce n'est pas lui qui définit les objectifs. Ce n'est pas lui qui va fixer l'arbitrage entre deux objectifs, puisqu'il y a en général des arbitrages à faire. Mais il doit présenter ces arbitrages de manière la plus honnête et transparente possible, de manière à ce que le décideur puisse prendre sa décision. Donc il y a vraiment un positionnement de l'économiste. Il faut faire très attention quand on est dans ce genre de position, de ne pas se substituer, hein, lorsqu'on est conseiller du prince, de ne pas se substituer au prince, mais de lui présenter les dernières avancées de la recherche, de manière à l'aider à prendre sa décision, sachant que, il faut rester humble, il y a d'autres conseillers du prince qui ont d'autres logiques, des logiques politiques, des logiques sociales, etc. Donc on sait qu'on n'est qu'une partie du processus de décision.
Et reste à savoir si l'économie est une science objective. On va en discuter tout au long de cette émission. Et du reste, Agnès Benassi-Kiré, vous citez toujours dans cette fameuse note les travaux de sociologues, pour le coup, alors non pas d'économistes, mais de sociologues américains, Daniel Hirschman et Elisabeth Pop-Berman, une étude qui a été menée en 2014 et qui évalue justement l'influence des économistes sur la décision publique. Selon eux, cette influence est plus forte dans les domaines techniques ou en période de forte incertitude. On pourrait légitimement, Agnès Benassi-Kiré, se dire que nous sommes actuellement en période de forte incertitude. Alors, au niveau national, évidemment, l'absence de budget pour l'année déjà entamée, aussi au niveau international, depuis, entre autres, évidemment, l'élection de Donald Trump et ses promesses en termes de commerce international. Est-ce que vous avez le sentiment que les économistes ont un rôle, effectivement, spécifique à jouer aujourd'hui, alors que l'incertitude est un peu sur tous les fronts?
Alors, je pense que l'influence des économistes, bon, il ne faut pas la surestimer, elle est sensible, elle est de plus en plus importante, mais plutôt dans le long terme. Ça prend du temps pour que les recherches, les nouvelles idées se diffusent. Alors, à la fois, je dis ça, et en même temps, j'étais très frappée, lors des dernières années, de la réactivité du monde des économistes, qui est tout à fait remarquable. Moi, j'ai une position plutôt positive, hein, sur, je trouve que les choses s'améliorent, notamment en France. Les économistes font de plus en plus de travaux appliqués sur des données françaises, et donc des choses qui sont vraiment utiles. Et lorsque j'étais dans une position à la direction du Trésor, notamment d'utiliser cette recherche, franchement, quand je cherchais,
c'était plutôt utile.
C'était utile. Alors, il y avait des trous dans la recherche et donc des sujets sur lesquels il n'y avait pas de tiroir à ouvrir pour trouver la réponse à mes questions. Mais quand même, j'ai été frappée, par exemple, pendant la crise Covid. Il y a eu une réactivité incroyable, puisque dès 2020, on a pu voir des travaux sur la macroéconomie de cette crise, qui était à la fois une crise d'offres et de demandes. Une manière simple de le dire, c'est quand vous fermez les restaurants, donc vous avez un choc d'offres. Le restaurant est fermé, les gens qui veulent aller au restaurant, ils ne peuvent pas. Mais en fait, vous avez aussi un choc de demande qui va avec sur un autre secteur, par exemple les taxis. Puisque les gens ne demandent plus de taxi, puisqu'ils ne vont plus au restaurant, parce que le restaurant est fermé.
Oui, et puis vous avez, même sont confinés.
Voilà, vous avez simultanément un choc d'offres et un choc de demande, hein, un choc d'offres sur la restauration et un choc de demande sur le transport de personnes. Et donc, ceci a été conceptualisé quasiment en temps réel
alors,
par des économistes.
Alors même c'est relativement inédite.
Et ce qui était fabuleux, je me souviens de cette période, c'est que aussi le confinement a accéléré la circulation des idées d'une certaine manière, puisque nous avions, nous, Européens, un accès direct aux séminaires de recherche qui se passaient aux États-Unis. Et vice-versa, d'ailleurs. Et donc, ça a été vraiment un moment vraiment intéressant. Donc, 2020, déjà les premiers articles sur le sujet. 2022, début de la guerre russe en Ukraine, où tout de suite, vous avez des articles d'un côté sur l'impact des sanctions sur l'économie russe, sur l'économie européenne, l'impact d'un embargo. très rapidement. Et j'ai trouvé ça vraiment nouveau et très positif.
Agnès Benassikeré, ce qu'on comprend dans ce que vous dites aussi, et ce qui est largement sous-entendu avec cette importance de la recherche et de sa capacité, on va dire, à s'adapter aussi à des circonstances parfois très inattendues. Hein, typiquement, le Covid, c'est quand même un choc qu'on n'avait pas forcément anticipé d'un point de vue des modèles économiques. Est-ce qu'il faut comprendre dans ce que vous nous dites que les décisions en termes de politique publique, en termes de politique économique, s'appuient quasiment nécessairement sur de la recherche? Est-ce que ce lien-là, il est avéré à peu près partout?
Non, on va pas... On va...
Ce serait un peu optimiste de dire ça.
Ce serait un petit peu optimiste de dire ça. Je pense que, bon, donc les articles dont je vous parle, moi ça m'a aidé dans mon travail pour conseiller le ministre, en l'occurrence, mais c'était pas un impact vraiment direct, c'était pour m'aider à réfléchir. Sur les sanctions, ça a pu avoir un impact, la manière de concevoir les sanctions. Après, mon expérience au Conseil d'analyse économique, c'était plutôt une expérience dans la durée. Alors, c'était intéressant, parce qu'à la fin de mes 5 ans en CAE, voilà, j'ai pris ma pile de 45 notes qu'on avait publiées, et puis je me dis, tiens, quel a été l'impact de ces 45 notes sur la décision publique?
Et donc, ces recommandations, parce qu'il y a toujours des recommandations dans ces notes.
Voilà, et donc j'ai fait quelque chose de totalement non scientifique. Je les ai pris une par une, j'ai pris les recommandations, et j'ai réfléchi à quel impact elles avaient eu, sans méthode sophistiquée, parce que j'avais pas le temps. Et j'ai noté de 0 à 3, 0, aucun impact, et 3, un très grand impact. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était les plus anciennes qui avaient eu un impact. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose intéressante, c'est pas celles dont on a le plus parlé qui ont le plus d'impact. Il y en a une, par exemple, sur la commande publique. Il y avait une directive, il y avait pendant les 5 ans, à un moment donné, la France devait transposer une directive européenne sur la commande publique. Et donc, Jean Tirole avait en particulier contribué à une note, il était membre du CAE, il avait contribué à une note très bonne sur la commande publique. Et donc, cette note a eu un impact vraiment sur la transposition. Après, il y a plein d'idées. Je vous prends un autre exemple de quelque chose qui percole, mais qui finit par percoler, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Comme les aides au logement, les aides à la pierre, les aides au logement. Donc, depuis longtemps, il est établi que ces aides, lorsqu'il l'offre est contrainte, ça fait monter les prix. Et donc, pour les gens qui reçoivent les aides, ça compense le fait que les prix ont augmenté, mais il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas d'aide et qui subissent la hausse des prix. Donc, à la fin, on n'est pas complètement sûr que ça améliore les choses. Et ça, c'est quelque chose qui a été établi depuis longtemps, et je crois que maintenant, c'est admis par tout le monde. Enfin, quasiment tout.
Forme de consensus.
Une forme de consensus. Mais ça a pris beaucoup de temps. On peut prendre sur un sujet très actuel le rapport Charpin. Hein. Premier rapport sur les retraites, je crois que c'est 78. 99, 80, pardon.
Oui,
78, c'est la création du CEPI, qui est une autre chose tout à fait intéressante. 99, c'est donc le premier rapport sur les retraites. Donc on voit le temps que ça met pour infuser. Et bon. Donc il ne faut pas désespérer si on n'a pas d'impact à court terme.
C'est les plus anciennes qui finissent par trouver une forme de concrétisation. Peut-être que le temps viendra des plus récentes. Hier, Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE, que vous connaissez bien, je crois, Agnès Benassikeré, était auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dérapage du déficit public en 2024. Il a notamment exprimé l'idée que des experts en finances publiques devraient participer à la confection du budget pour éviter à Bercy, je cite, « de porter seule la responsabilité des erreurs de prévision ». Est-ce que vous souscrivez à ce diagnostic, Agnès Benassikeré? Dans quelle mesure les décisions de politique économique sont-elles le fruit de décisions trop cloisonnées en l'état?
Alors, sur le sujet particulier des finances publiques, moi, ce qui me frappe, c'est la pauvreté de l'enseignement sur les finances publiques à l'université, dans les écoles qui enseignent l'économie en manière générale. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est surtout enseigné dans les filières juridiques, et les économistes s'en tiennent souvent au multiplicateur keynésien, et à la question des inégalités, de la redistribution par la fiscalité. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et les finances publiques au sens construction d'un budget et de plonger ça dans la théorie économique, et même d'ailleurs les connaissances pratiques sur le fonctionnement de l'économie, c'est pas assez, culturellement, c'est pas assez présent en France. Et je pense que ça améliorerait beaucoup les choses s'il y avait plus de compréhension de ça. Vous savez, Jean-Luc Tavernier était mon premier chef.
D'où on sous-entend
mon premier chef. Donc, il m'a appris le métier. Moi, je sortais de ma thèse, donc qui avait beau être appliquée, elle restait quand même assez théorique. Et lui, c'était mon premier chef. À l'époque, c'était la direction de la prévision, ce qui est maintenant devenu la direction générale du Trésor. Et donc, il a toujours d'ailleurs une très grande clairvoyance. Il va directement, très rapide, et directement au point qui fait mal et à la contradiction. Enfin, vraiment, ça a été une découverte pour moi. Ça a joué dans mon goût pour ce lien entre l'expertise et puis la décision.
Alors là, vous me fournissez une transition toute trouvée, Agnès Benaiskéré, pour commencer à aborder aussi votre parcours, le début de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à l'économie? Est-ce que c'est dès le départ une vision de cette économie qui peut conseiller, qui peut proposer des outils pour prendre les meilleures décisions possibles? Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'économie initialement?
Alors, je n'étais pas du tout programmée pour devenir économiste. J'ai fait une école de commerce, l'école de l'ESCP à Paris. Et puis, pourquoi j'ai fait cette école de commerce? Parce que je m'intéressais beaucoup à l'entreprise. Enfant, j'écoutais des émissions sur les chefs d'entreprise qui racontaient leur entreprise, l'environnement de l'entreprise, etc. Ça me fascinait. Je ne sais pas très bien pourquoi ça me fascinait. Et donc, logiquement, j'ai fait une école de commerce. Et puis ensuite, j'ai voulu aller plus loin, donc master d'économie. Et là, j'ai découvert la macroéconomie, notamment la macroéconomie monétaire internationale. Et donc, j'ai enchaîné finalement sur une thèse sur la détermination des taux de change dans un modèle macroéconomique multinational. Et donc, j'ai soutenu cette thèse donc en 92, en pleine turbulence sur le système monétaire européen. Et là, ça a été un petit peu... je me souviens encore, donc à cette époque-là, quelqu'un à la radio m'appelle pour intervenir sur la crise en cours.
Déjà.
Et je me dis, non mais je ne suis pas du tout assez qualifiée pour aller parler de ce sujet à la radio. Et Jean Pisani-Ferry, qui est une autre personne qui a compté beaucoup, me dit, tu as tort, c'est une erreur. Tu aurais dû y aller, tu vas voir, quelqu'un y va y aller et moins compétent que toi, et va dire des choses moins intéressantes. Et donc, du coup, j'ai écouté. Je me suis dit, ah mais mince, il avait raison. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça. Et ça a été un peu un déclic où je me suis dit, ah finalement, j'ai peut-être quelque chose à dire aussi, moi, sur le monde tel qu'il évolue et sur les politiques économiques. Et donc... ça m'a amené un petit peu à me situer un peu à la frontière entre la recherche et la politique économique dès le départ, puisque en fait, en parallèle de, disons, une carrière universitaire, j'ai toujours eu un pied un peu dans des conseils variés ou au CEPI ou et puis ensuite au CAE, etc.
Et puis, on peut peut-être dire aussi que vous êtes bien rattrapée en termes d'intervention à la radio, parce que vous avez été chroniqueuse pour France Culture pendant quelques années. C'était les fameuses idées claires d'Agnès Benaiskéré. Voilà. Entre autres, c'était tous les jeudis, je crois.
Tous les jeudis matin, très tôt. Ça a été une expérience vraiment intéressante, très difficile au départ. Hein. C'est-à-dire que votre métier, il a fallu l'apprendre. Et donc, en plus, à 7h30, vous n'allez pas pouvoir dérouler un exposé très compliqué à des gens qui sortent du lit, qui se lavent les dents, et donc et on a que 3 minutes. Donc, et si je venais, c'était pas non plus pour dire ça monte, ça baisse. Et donc, ça a été un très très bel exercice, très bon exercice pour arriver à dire des choses, les choses relativement simples, mais qui est quand même du contenu, et de les dire, ne pas.
Donc, pas forcément les imposer, en tout cas auditrices, auditeurs, si vous souhaitez retrouver ces chroniques, sachez qu'elles sont toujours en ligne. Voilà, il n'y a même pas à les chercher sur la base des archives de l'INA. Elles sont toujours disponibles si vous voulez écouter la première chronique d'Agnès Benaiskéré.
Alors, n'écoutez pas la première parce que je crois qu'elle n'était pas très réussie.
Elle était bien.
Attendez un petit peu parce que il a fallu un peu de rodage.
C'était en 2011, donc il y avait une sacrée actualité aussi à l'époque. Joan Robinson, une autre grande figure de l'économie, on a cité des personnages que vous avez pu croiser. Alors, Joan Robinson, elle est plutôt une théoricienne. Elle s'est également demandé ce qui l'avait poussée à s'intéresser à l'économie. C'est une réflexion qu'elle mène dans ses Contributions to Modern Economics, publiée en 1978. Elle le dit, lorsque je suis arrivée à Cambridge, c'était en octobre 1921, pour étudier l'économie, je ne savais pas trop de quoi il était question. J'espérais confusément que cette discipline m'aiderait à comprendre la pauvreté et les moyens permettant d'y remédier. Je croyais aussi que l'économie offrirait une base de raisonnement rationnel plus large que l'histoire, mon sujet d'étude, tel qu'on l'enseignait à ce moment-là. Une base de raisonnement rationnel plus large, c'est aussi ce que vous cherchez en passant de la microéconomie à la macroéconomie, Agnès Benaiskéré.
Alors oui et non, c'est-à-dire que bon, alors toute proportion gardée, comme Joanne Robinson, quand je suis arrivée à l'université, j'étais une sorte de grande débutante et j'allais donc apprendre une nouvelle discipline. Peut-être aussi, donc elle a toujours montré un grand recul par rapport à la profession. Je dirais pas que j'ai forcément un grand recul par rapport à la profession, mais disons, le fait de commencer tard, ça amène à se poser peut-être plus de questions que quelqu'un qui a été biberonné au théorie économique, qui va pas forcément remettre en cause les hypothèses aussi facilement. Aussi, le fait que j'étais passée par l'entreprise me donnait un aspect un peu pragmatique qu'on voit souvent dans les discussions avec les chefs d'entreprise et qu'on a toujours un peu de mal à faire converger le discours micro et le discours macro. Et je pense que ça m'aide puisque j'ai été pas dans leur peau, mais disons, je connais un petit peu leur monde. Maintenant, j'ai une grande admiration pour Joanne Robinson, notamment pour ses écrits sur la concurrence imparfaite, sur les taux de change. C'est comme ça que je l'ai connue, hein, dans un de ses livres. Il y a tout un chapitre sur les taux de change. Et plus. Donc, à la fois, c'est quelqu'un qui a inventé des concepts qui, ensuite, ont été redécouverts par d'autres qui ne la citent jamais. Je pense, par exemple, à ce qu'on appelle la tarification au marché, le fait qu'un exportateur va fixer ses prix en fonction de ses prix dans son pays d'origine, mais aussi des prix dans le pays de destination. Donc, naturellement, ce n'était pas modélisé, mais les idées étaient là. Et ensuite, ça a été repris par des grands économistes, hein, comme Paul Krugman. Mm-hmm. Et aussi, la manière dont elle écrit, avec beaucoup de verve. Et donc je me suis dit, l'économie, c'est pas forcément ennuyeux, on peut se permettre, voilà, et ça m'a beaucoup plu, je pense qu'il faut, lire Joanne Robinson aujourd'hui. Alors après, il y a toute une deuxième partie de son œuvre que je connais beaucoup moins, le post-keynésianisme, etc., que je connais beaucoup moins, mais j'aime bien la citer, parce qu'elle tend à être oubliée aujourd'hui, alors que je pense que c'est assez puissant, en fait.
Et ce qui est le cas d'un certain nombre de femmes économistes aussi, dès lors qu'on remonte le cours de l'histoire. Vous avez prononcé un mot qui est important, Agnès Benassikiré, celui de modéliser. La modélisation occupe une place importante dans vos travaux, et à commencer par vos travaux de thèse, tout simplement. On l'a dit, soutenu en 1992. Il y a un modèle sur lequel vous avez plus spécifiquement travaillé, qui s'appelle Mimosa, un doux nom, mais qui relève d'une réalité un peu plus complexe que cela. C'est un modèle macroéconomique de l'économie mondiale qui étudie, je crois plus précisément, les déterminants des taux de change. Vous l'avez évoqué à travers la figure de Joanne Robinson. Qu'est-ce que vous avez découvert, si c'est possible de le synthétiser, on va dire, grâce à ce travail, et de façon plus générale, que permet la modélisation macroéconomique, Agnès Benassikiré?
Alors, je vais commencer par les taux de change, et puis ensuite, je parlerai de la modélisation plus généralement. Sur les taux de change, donc, ma thèse, c'était la détermination des taux de change. Et un morceau, c'était comment intégrer une détermination endogène des taux de change dans un modèle qui existait par ailleurs. Endogène, ça veut dire que c'est le modèle lui-même qui déterminer le taux de change au lieu qu'on le mette de l'extérieur en disant ça va être tant de, à l'époque, des francs français dans un dollar. Le problème qu'on avait, c'est que c'était une variable tellement importante à l'époque, c'était avant l'euro, tellement importante que ça pouvait perturber énormément les résultats. Et donc tous les autres qui avaient travaillé, qui sur la consommation, qui sur l'investissement, etc., ils étaient d'une certaine manière désespérés, parce que moi j'arrivais avec mes équations de taux de change et ça changeait tous les résultats. Je vous passe les détails techniques. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là on touche du doigt un domaine où les économistes vraiment, on a vraiment besoin des économistes, parce que en économie tout est dans tout. Hein, vous tirez un fil, c'est le Mikado, vous bougez une brindille et puis tout bouge. Et c'est très difficile de se dire, je commence par où, en fait. Je commence par où, et d'avoir un raisonnement qui est en ce moment d'équilibre. C'est-à-dire que on va faire, le taux de change va varier, et donc les prix vont varier, et donc le pouvoir d'achat, etc. Et d'arriver à raconter tout ça de manière cohérente. Je pense que c'était une énorme chance pour moi de démarrer comme ça. Parce que après ça, c'est un peu apprendre à faire du vélo ou apprendre à nager, la comptabilité.
Vous avez les mécanismes en tête, et ça vous permet de.
Ça vous reste pour continuer. La vie, en fait. Ça vous reste pour la vie, et c'est quelque chose qui est pas facile à communiquer. C'est vraiment une technique à apprendre, et moi je recommande beaucoup aux jeunes de passer par la modélisation en équilibre général, c'est-à-dire tous les marchés ensemble. Là, en plus, c'était plus tous les pays ensemble. Hein. Il y avait donc tous les, enfin, les grandes zones de l'économie mondiale. Et donc, c'est très formateur, je pense, pour les jeunes de passer par là.
Ce qui est potentiellement un passage un petit peu... Les questions sont plus complexes que ce qu'on imagine habituellement en économie, qui n'est pas qu'une question d'opinion. De fait,
c'était terrible. On passait des heures et des heures à enlever les erreurs du modèle. Et même, je me souviens encore, j'avais pendant la nuit, je rêvais que j'étais le modèle qui divergeait. Vous voyez.
Je voulais pas ramener ces souvenirs traumatisants, mais de fait, je vois qu'ils sont toujours un peu présents. Ce qui est intéressant avec cette idée de qu'en économie, tout est dans tout, comme vous l'avez dit, et qu'il est très compliqué soit de faire abstraction d'un facteur, soit de construire des modèles en ignorant un, c'est que je reviens à cette note du CAE de juillet 2017 qui s'intéresse à la place de l'économiste dans la cité. Il y a une chose qui a été identifiée comme un facteur d'incompréhension mutuelle entre un public assez large, on va dire, et les économistes, c'est justement, très précisément, le fait que l'économie mette en évidence des relations causales et qu'elle fournisse des raisonnements bouclés qui intègrent la réaction des différents prix et revenus sur les marchés jugés pertinents. En fait, c'est précisément cette notion-là de système interconnecté, il est impossible de ne pas tirer un fil sans que tout vienne avec, qui participe à une forme d'incompréhension vis-à-vis de la discipline économique. Est-ce que, Agnès Benassikeri, il n'y a pas une forme de fatalité là? Dès lors qu'on parle de macroéconomie, on est un peu forcé à perdre en clarté auprès du public.
Oui, mais enfin, c'est là qu'on est utile, hein, parce que si l'économie, c'est un gâteau à partager, il n'y a pas besoin d'économiste pour discuter le partage du gâteau. Il suffit d'avoir un pâtissier et puis un serveur. Voilà, donc je pense que c'est là, les économistes sont utiles pour le débat, pour justement mettre le doigt sur des choses qui ne sont pas évidentes. Par exemple, la question de l'incidence. On parlait des aides au logement tout à l'heure. C'est pas totalement intuitif pour tout le monde que une partie importante des aides au logement, en fait, vont dans la poche des propriétaires et non pas des locataires. Et donc ça, c'est lié à un raisonnement d'équilibre. C'est pas totalement évident pour tout le monde, notamment pour les électeurs de Donald Trump, que les droits de douane à l'importation vont être payés par les consommateurs américains. C'est pas évident pour tout le monde que l'impôt sur les sociétés, je vous donne juste un troisième exemple et je m'arrête, l'impôt sur les sociétés, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, notamment sur l'Allemagne, l'impôt sur les sociétés est en partie, de facto, payé par les salariés. Pourquoi ? Parce que les entreprises, si on leur augmente l'impôt sur les sociétés, comme elles doivent servir à un rendement après impôt qui est donné par le marché des capitaux mondial, elles vont couper les investissements qui ne... non pas le rendement après impôt qui est requis, et donc elles vont réduire l'emploi ou réduire les salaires ou un peu des deux.
Donc on a besoin de comprendre l'intégralité du circuit pour mesurer les effets des politiques prises. Parallèlement à ce parcours qu'on mentionnait, vous avez en 1992 parallèlement à cette thèse, vous êtes nommé maître de conférence à Cergy Pontoise, vous avez rejoint ensuite l'université Lille 2 en tant que professeur, puis l'université Paris-Ouest Nanterre, puis l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'école d'économie de Paris au début des années 2000. En 2009, vous êtes professeur chargé de cours à l'école polytechnique. Qu'est-ce que vous retirez de ces années d'enseignement, Agnès Benassikeri? Est-ce que l'économie est facile à enseigner, potentiellement pour celles et ceux qui n'ont pas nécessairement envie de vouer leur carrière à l'économie? Est-ce qu'il est facile d'intéresser un public large que sont des salles de cours entières?
Alors, j'ai enseigné, comme vous l'avez mentionné, dans plusieurs cadres. Donc, c'est assez différent. Là, je continue à enseigner dans le cadre d'un master avec des gens très sélectionnés, hyper motivés. Donc là, il n'y a aucun problème pour les intéresser. Il faut juste que je calibre bien pour ne pas déborder de manière systématique le temps qui m'est alloué. Mais j'ai aussi enseigné dans des publics de licence, des grands amphithéâtres. Et là, se pose véritablement la question de qu'est-ce que je passe comme connaissance. Et il faut être nécessairement plus modeste. On a un public divers avec simultanément des étudiants qui s'ennuient et d'autres qui ont décroché. Donc j'ai essayé d'innover un petit peu. Donc au lieu de faire sortir les étudiants de l'amphithéâtre et les mettre devant des écrans, j'ai essayé de faire rentrer les nouvelles technologies dans l'amphithéâtre et de faire une sorte de cours connecté. Donc ça, c'était mes dernières années, avec des quiz en direct, avec des des pads qui leur permettaient de poser des questions par écrit. Enfin, c'était assez interactif. J'en ai retiré que quelqu'un qui a décidé de pas écouter, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'écoutera pas. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a polarisé. C'est-à-dire que les étudiants déjà intéressés sont devenus enthousiastes. Mais les autres, ben voilà, on les a laissés sur place.
Et sur le bord de, sur voilà, le bord de la route, ce qui est bon.
Alors maintenant, j'entends régulièrement des critiques sur l'enseignement de l'économie en France. Et je trouve que ces critiques sont vraiment injustes. Parce qu'il y a eu une rénovation de l'enseignement de l'économie en France qui a été très positive, au sens où les étudiants qui sortent des filières d'économie trouvent des emplois facilement. On a des très bons taux d'insertion. Ils sont mobiles, ils sont bien accueillis dans des filières, après dans d'autres pays européens. Pour moi, c'est un succès. Alors après, on dit, c'est loin de... Il y a deux critiques qui sont données. Il y en a une, c'est loin de la pratique de l'économie. Alors là, je ne vois pas de quoi on parle, parce que... voilà, moi, je puise toujours mes exemples de cas pratiques. Donc je ne vois pas trop de... Enfin, en tout cas, je... Et l'autre critique, je l'entends davantage... C'est l'économie, il faut quand même, ça reste une science sociale, et il y a d'autres sciences sociales qui vont venir compléter. Ça, je l'entends tout à fait. Il y a aussi la dimension historique qui est très importante. Je l'entends tout à fait. Après, c'est une question de séquençage, à mon avis, dans la progression des étudiants. On peut pas les noyer d'emblée par quelque chose de trop compliqué. C'est une question qu'on s'est aussi posée lors de la définition du parcours de Citeco, je ne sais pas si vous connaissez cette cité de l'économie, où on a un parcours et donc on est toujours en train de se demander le degré de complexité que
dans lequel on peut rentrer. En fonction du public.
Voilà, est-ce qu'il ne faut pas commencer avec les bases et ensuite ouvrir sur d'autres champs d'analyse? Par exemple, on commence avec un marché et puis on finit peut-être avec des transactions hors marché. Vous voyez, mais on ne va pas d'emblée dire il y a toutes sortes de configurations. Enfin,
tout est une question de pédagogie. En tout cas, c'est ce qu'on
voilà,
comprend.
Voilà, c'est très intéressant comme discussion et je pense qu'on devrait, peut-être un peu calmer les esprits et en discuter de manière peut-être plus concrète sur des exemples précis.
En 2000, vous avez reçu le tout premier prix du meilleur jeune économiste. Également, Bruno Almable avait aussi reçu ce prix cette année-là. Un prix dont le jury a longtemps été présidé par André Cartapanis, membre comme vous, d'ailleurs, du Cercle des économistes, dont on a appris récemment la disparition en septembre dernier. Agnès Benassiquéré, qu'a apporté André Cartapanis à la macroéconomie internationale dans laquelle vous vous spécialisez aussi dans votre parcours?
Alors j'aimais beaucoup André, c'était une grande tristesse quand j'ai appris sa disparition brutale. André, c'est quelqu'un qui, alors justement, c'est un pédagogue hors pair. Il a vraiment apporté énormément à ses étudiants à l'université et a vraiment passé les résultats de la recherche de manière très ouverte sur les dernières recherches, mais également c'était quelqu'un de très curieux qui allait aussi discuter avec toutes sortes de collègues. Donc vraiment c'est une grande perte. Il a publié beaucoup sur les sujets de macroéconomie internationale, notamment sur le déséquilibre de balance des paiements. Donc c'est quelqu'un qui restera dans nos cœurs et dans nos esprits.
Et c'est donc en économiste aux multiples casquettes, puisque nous avons parlé à la fois de microéconomie puis de macro, de modélisation et de façon, on va dire, de vulgariser, en tout cas de faire passer un message, que vous abordez les années 2010. En 2012, vous devenez président délégué de ce fameux conseil d'analyse économique. C'est donc une nouvelle facette du métier d'économiste qui se présente. Justement, il y a quelque temps, s'est tenu le sommet du Grand Continent, du nom de ce média en ligne, qui avait invité les économistes Barry Eichengreen et Olivier Blanchard à dialoguer sur le rôle de l'économiste. Voici l'analyse d'Olivier Blanchard.
Pour moi, relever ce défi autour du rôle de l'économiste passe par deux étapes essentielles. La première est fondamentale. Il s'agit de comprendre et de clarifier les problèmes tout en dénonçant les raisonnements erronés lorsqu'ils existent. Prenons l'exemple du commerce international. Les théories erronées ne manquent pas et elles doivent être démystifiées par une analyse solide. Ce type de travail intellectuel est essentiel. La deuxième étape consiste à traduire ces connaissances en recommandations pratiques pour les décideurs politiques. J'ai eu le privilège de le faire au cours de ma carrière au Fonds monétaire international et dans d'autres fonctions. L'essentiel est de présenter des solutions qui ne sont pas seulement solides sur le plan théorique, mais aussi réalistes et réalisables. Une proposition qu'un décideur politique ne peut pas mettre en œuvre n'a que peu d'intérêt. Il est essentiel de combler le fossé entre la théorie et la pratique pour réaliser des progrès significatifs. Le rôle de l'économiste est ici de reconnaître la nécessité d'un changement et de poser la question suivante. Comment redéfinir le système? Cela peut aller de conseils généraux ou de principes de haut niveau à des recommandations politiques très spécifiques. En fin de compte, je pense que les économistes sont particulièrement bien placés pour offrir ce type d'orientation, ce que d'autres ne peuvent pas faire de la même manière.
Voilà, c'était Olivier Blanchard qui tenait donc cette conférence organisée par le Média Grand Continent. C'était au tout début du mois de décembre 2024 et puis mis en ligne le 12 janvier 2025. On en revient à ce fameux rôle de l'économiste dont on parle depuis le début de l'émission, Agnès Benassi-Kéré. Avec une nouvelle nuance, cela dit, celle d'une potentielle défiance, parce que Olivier Blanchard le dit, les théories erronées ne manquent pas. Ça participe aussi à une forme de décrédibilisation, peut-être aussi, de la profession d'économiste vis-à-vis au moins du public.
Alors bon, Olivier Blanchard, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il parle de clarté, l'importance de la clarté. Franchement, c'est un des économistes les plus clairs que j'ai pu rencontrer. Ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'il dit, c'est que il faut être clair sans simplifier à outrance, sans être manichéen. Et en effet, on peut faire des erreurs. En fait, aussi, le travail de l'économiste vis-à-vis du décideur, c'est aussi beaucoup de l'empêcher de faire beaucoup d'erreurs. Hein, parce que, en effet, plein de gens gravitent autour et vont avoir des idées simples et parfois erronées. Parfois, on le sait à l'avance, parfois, on le sait plus tard. Alors, souvent, on critique les économistes parce qu'ils font des erreurs de prévision.
Et Olivier Blanchard avait été le premier à admettre que, notamment lors de la crise de 2008, il s'était trompé.
Des erreurs de prévision. Donc, c'est facile de dire, il vaut mieux pas faire de prévision. Ben non, on est obligé de faire des prévisions. Donc, voilà.
C'est un risque à prendre.
Je pense qu'il y a, là aussi, il y a une amélioration quand même dans les capacités de prévision. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le sujet et qui améliorent les choses. Alors, Olivier Blanchard dit une deuxième chose. Il dit il faut aussi accepter donc de rentrer un peu dans le jeu du décideur, non pas pour se laisser influencer, mais pour proposer des choses qui sont faisables, en fait.
Et qui correspondent potentiellement à ses priorités.
Voilà, c'est ça. Et donc, parce que pour avoir de l'influence, si vous êtes complètement dans un monde sans contraintes institutionnelles, par exemple, ben, en fait, vous avez peut-être raison, mais ça ne va pas coller. Voilà, donc il faut accepter de rentrer dans cette logique. Vous savez, moi j'ai travaillé donc au ministère des Finances, donc j'avais du temps de Bruno Le Maire. Et alors quand je suis partie, il a dit une chose qui au début m'a choquée. Il m'a dit que j'avais le sens politique. Alors franchement, je n'ai pas le sens politique. Hein, on est d'accord. Enfin, je suis sûre que je n'ai pas le sens politique.
Mais je vous attachez à compartimenter.
Mais je crois que ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que j'acceptais de rentrer dans une discussion où il y avait des contraintes politiques et de présenter aussi les choses, si possible, de manière positive. Voilà. Et aussi de l'aider à comprendre pourquoi d'autres pensent différemment et vont dire le contraire de ce que je suis en train de leur dire.
Vous l'avez dit, vous êtes passé par le ministère des Finances, ce qui est une façon aussi de concrétiser le rôle de l'économiste. Vous êtes actuellement à la Banque de France, qui est une autre institution. Agnès Benassi-Kéré, vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est l'occasion peut-être de nous expliquer aussi ce qu'est cette institution où vous êtes actuellement et quelle est sa place aussi dans ces processus de décision. On l'a dit, la Banque de France est une institution indépendante depuis relativement récemment. Il faut le mentionner. Quels leviers sont disponibles au sein de la Banque de France pour jouer justement sur, on va dire, des facteurs macroéconomiques à l'échelon national en tout cas?
Alors, la Banque de France a des mandats qui sont pas forcément très bien connus du grand public. On peut peut-être les classer en trois. D'abord, la Banque de France fait partie de l'eurosystème aujourd'hui et donc contribue à la définition de la politique monétaire, la montée des taux, puis la baisse des taux aujourd'hui. On alimente les analyses avec des informations sur la conjoncture française et sur les prévisions pour l'économie française, donc dans le but de stabilité des prix au niveau de la zone euro.
Petite parenthèse, Agnès Blaise-Sécury, parce que c'est intéressant. On a très souvent l'impression que c'est la BCE qui gère ces questions-là et qui a la main mise sur l'établissement de ces taux. Est-ce que la Banque de France a une forme d'indépendance justement vis-à-vis de la BCE, ou est-ce qu'elle se contente de suivre finalement les décisions prises au niveau européen?
Alors, quand on dit BCE, c'est un raccourci, en fait. C'est le système européen des banques centrales. C'est-à-dire, il y a la BCE à Francfort, et puis il y a toutes les banques centrales nationales. Donc, la Banque de France, la Bundesbank, la Banca d'Italia, etc. Et donc, tout ce monde-là se retrouve une fois par mois à Francfort pour décider de la politique monétaire. Alors, j'ouvre une parenthèse, là, parce qu'il y a souvent un peu une incompréhension sur qu'avons-nous gagné à l'euro, est-ce qu'on n'a pas perdu en termes d'indépendance
de souveraineté
sur notre politique monétaire? En fait, il faut se rappeler qu'est-ce que c'était la politique monétaire de la France avant l'euro. Et la réponse est la politique monétaire de l'Allemagne. Voilà, donc la France devait coller à la politique de l'Allemagne parce que sinon ça faisait décrocher la monnaie. Et parce qu'on était dans un système de change fixe, et donc le système monétaire européen dont on a parlé tout à l'heure, qui a vécu des crises. Et avant, il y avait aussi des systèmes de change fixe. On va pas refaire l'histoire monétaire de l'après-guerre.
On a fait l'émission dessus, si les
auditeurs veulent
s'y référer.
Et donc, en fait, on n'avait pas d'indépendance monétaire. Et aujourd'hui, c'est bien mieux, puisque la France participe à une politique monétaire qui... Et en fait, quand on regarde dans le détail, j'ai écrit un petit billet de blog là-dessus, en fait, la France est le pays médian dans la zone euro. Et donc, la politique monétaire de la BCE, comme on dit, convient, mais très bien, à l'économie française. En moyenne, c'est un des pays pour qui ça convient le mieux. Et en plus, on a des taux d'intérêt plus bas parce qu'on a un gain de crédibilité. Donc, en fait, on a été vraiment gagnant sur tous les plans. Je crois qu'il faut vraiment le dire, ça, parce que sinon, effectivement, on se dit, oh là là, c'est décidé à Francfort, c'est loin de nous, est-ce que ça nous est adapté? La réponse est oui, en fait.
Agnès Benassikeri, il y a une autre chose aussi, peut-être pour éviter toute forme de confusion, qu'il faut bien préciser. On l'a dit, la Banque de France est indépendante depuis 1993. Que recouvre exactement ce concept d'indépendance? Ça signifie qu'en aucun cas la Banque de France ne prête directement à l'État français. C'est peut-être ça qu'il faut éviter de s'imaginer de façon trop directe, en tout cas.
Oui, alors les banques centrales de manière générale sont actives sur les marchés financiers et en particulier lorsqu'il y a un risque de baisse des prix comme il y a eu à partir de 2000, à partir de la crise de la zone euro jusqu'à 2019, puis de nouveau 2020, 21, puis bon, 2022 ça s'est retourné. Donc sur cette période-là, la BCE et donc la Banque de France faisant partie de l'eurosystème a acheté sur les marchés des titres de dette publique. Mais c'est sur les marchés et c'est au prix du marché. Ça n'est pas une avance directe à l'État. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est la première dimension de l'indépendance. La deuxième dimension, c'est le gouverneur de la Banque de France, la présidente de la BCE, n'ont pas de conseil, enfin en tout cas de directive à recevoir de la part de l'exécutif, donc du Premier ministre, du ministre des Finances, de la Commission européenne, etc. Donc ça, c'est... Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? En fait, on voit le gain aujourd'hui. On a vu le gain dans la phase inflationniste. C'est-à-dire que quand la BCE dit « Nous allons revenir à une inflation de 2% », comme la BCE est indépendante et comme elle a des instruments pour atteindre son but, le taux d'intérêt, les instruments d'assouplissement monétaire, eh bien, en fait, on la croit. Il y a une règle de Tinbergen qui date des années 50. Jan Tinbergen, qui était en fait un physicien, qui est devenu économiste, un modélisateur, voilà, un des premiers modélisateurs. Et il avait établi cette règle, qui est en fait une règle mathématique. Mais la traduction, c'est il faut autant d'instruments que d'objectifs et que ces instruments soient indépendants entre eux. Et donc, un instrument, la politique monétaire, un objectif, l'inflation à 2%, eh bien, c'est possible de l'atteindre et donc c'est crédible. Ce gain de crédibilité, à quoi est-ce qu'il nous a servi récemment? Il nous a servi à obtenir une désinflation avec un coût extrêmement faible pour l'économie réelle. On n'a pas eu de récession. Or, Voilà, le choc inflationniste, il était du même ordre de grandeur que dans les années 70. Hein. Dans les années 70, il n'y avait pas cette indépendance. Et donc, les entreprises, les travailleurs, les marchés ont anticipé que l'inflation allait continuer. Et quand tout le monde anticipe que l'inflation va continuer, ça a un caractère autoréalisateur. Et donc, la Banque centrale doit monter les taux énormément pour arriver à calmer tout ça et remettre l'inflation. Et ça a été très long dans les années 70. Ça a été ultra rapide dans l'épisode qu'on vient de vivre, même si ça a été douloureux. Hein, je ne conteste pas ça. Mais en fait, on a fait des calculs en interne hein, montrant que le taux d'intérêt aurait dû monter de l'ordre de 8 ou 8,5% au lieu de 4,5% que le taux d'intérêt de la BCE, hein, taux d'intérêt directeur, pour vaincre l'inflation, alors que oui, on a un gain tout à fait substantiel, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on a compris. On parlait tout à l'heure de le temps que les idées se mettent en place et diffusent et se traduisent par des améliorations de la politique économique. Là, on l'a. Ça date des années 80, hein, ces idées d'indépendance des banques centrales. Ben là, on a vraiment le gain. Je pense qu'il faut le préserver.
En tout cas, ce qu'on a compris, Agnès Benassi-Kéré, ce sont un peu les piliers, on va dire, les mandats de cette fameuse banque centrale nationale, celle de la France. De fait, il y a cette idée de stratégie monétaire, de stabilité aussi, qui est très importante financière. On va voir aussi comment les institutions et plus largement l'économie française s'inscrit aussi dans cette Europe qu'on mentionnait, qui se consolide d'un point de vue institutionnel, mais aussi en termes de politique économique, et quelle place pour l'État dans les décisions de politiques économiques. Sur France Culture, entendez-vous l'écho tend son micro à la sous-gouverneure de la Banque de France, Agnès Benassi-Kéré. Agnès Benassi-Kéré, ce choix de la grande fugue de Beethoven, opus 133, dont on entendait à l'instant un extrait, et le vôtre. Pourquoi ce choix ?
Alors, quand je ne suis pas à la Banque de France, il m'arrive de faire de la musique en tant qu'amateur. Je suis violoniste amateur, et je fais du quatuor depuis longtemps. Et pour un quatuor à cordes, la grande fugue de Beethoven, c'est vraiment l'horizon, c'est le Graal. Et il y a un parallèle, je trouve, avec l'activité, enfin mon parcours en tout cas. Je me suis rendu compte avec mes camarades du quatuor, on s'est rendu compte que cette œuvre qui était inaccessible quand nous étions plus jeunes, aujourd'hui nous la comprenons, enfin nous sommes capables, disons, de la jouer, pas en concert, hein, je vous rassure, mais de la jouer, et nous la comprenons. Alors, quand on l'écoute la première fois, c'est un peu un magma sonore et on a du mal à s'y retrouver. Et donc, je trouve que ça me rappelle le fait que lorsque j'arrive sur un nouvel... lorsque je suis arrivée en master le premier jour, master d'économie, je n'avais jamais fait d'économie, j'étais perdue. Lorsque je suis arrivée sur cette partition la première fois, j'étais perdue. lorsque j'ai changé de travail et j'étais arrivée dans un nouvel environnement, les premiers jours, j'étais perdue. Et ce qui est magnifique, c'est que j'étais perdue comme au premier jour. Et en fait, avec l'expérience, on arrive plus rapidement à tirer les fils, à comprendre. Et en fait, un grand bonheur pour moi, c'est lorsqu'on arrive à comprendre un peu et de mieux en mieux et se repérer et ne plus se perdre. Et ça, c'est, voilà, pour moi, c'est une grande joie. Et ça me rappelle mes jeunes années où, au début, c'était le brouillard total. Et après, on distingue des formes et finalement, on finit par maîtriser un peu le sujet. Et ça, c'est un grand bonheur, je trouve.
Et c'est donc une façon et une raison aussi de continuer à s'intéresser à l'économie qui peut, de fait, paraître parfois un peu obscure de premier abord. Et puis ensuite, une fois qu'on commence à tirer tous les fils, tout devient plus clair. On s'était quitté, Agnès Benassi-Kéré, sur les missions, sur les mandats de cette fameuse Banque de France. Depuis la loi du 31 décembre 1989, la Banque de France intègre à ses missions la lutte contre le surendettement des particuliers et de façon générale, parmi ses mandats figurent les services à l'économie et à la société. Pourquoi une telle mission ?
Effectivement, la Banque de France donc a des missions de service public pour l'économie française. Certaines sont plus connues que d'autres. Donc pour les particuliers, c'est assez bien connu, le droit au compte, les dossiers de surendettement, le traitement des dossiers de surendettement. Également, c'est tout à fait d'actualité, la proposition qui est faite, donc c'est le gouverneur de la Banque de France qui propose au ministre le taux du livret A. Le taux du livret d'épargne populaire, qui je rappelle est à 3,5%, très intéressant pour ceux qui sont éligibles. Donc ça, c'est les particuliers. Du côté des entreprises, il y a également une mission de cotation des entreprises. Entre parenthèses, ça a été très utile pendant la crise Covid, puisque en France, donc c'est pas le cas dans tous les pays, hein, mais en France, il y avait cette cotation, ça a permis au gouvernement de très rapidement pouvoir proposer les prêts garantis par l'État à des entreprises qui avaient une cotation qui était donc de définir l'éligibilité par rapport à la cotation et donc à la santé de l'entreprise pour ne pas offrir des prêts garantis par l'État à des entreprises qui étaient proches déjà de la faillite. Donc c'est un service qui est donc c'est utilisé par les banques, etc. La médiation du crédit aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, donc il y a un grand chantier à la Banque de France qui est la conception d'un indicateur climat, qui est un indicateur qui va être proposé aux entreprises sur une base volontaire pour les aider à comprendre leur exposition aux risques physiques liés au changement climatique et donc plus tard, eh bien à concevoir leur plan de transition. On a aussi une mission de service public sur l'éducation financière. C'est très actif, avec un énorme succès, avec une coopération qui marche très bien avec l'éducation nationale.
Vous citiez les quatrièmes qui passent. Oui.
Alors, c'est pas Citeco, éducation financière, c'est voilà, ça marche avec.
Oui, exactement.
Et où les quatrièmes passent un passeport. Il y a beaucoup de d'activités pour différents publics. Et enfin, l'outre-mer, où la Banque de France a donc une filiale qui est l'Institut des missions des départements d'outre-mer et une autre qui est l'Institut des missions d'outre-mer. Donc aussi pour soit mettre à disposition les billets en outre-mer, mais aussi pour les outre-mer qui sont donc la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie et Wallis et Futuna, c'est carrément de faire la politique monétaire de ces trois territoires.
Agnès Benassi-Kéré, vous avez cité notamment ce qui s'était passé pendant la crise Covid et notamment ces prêts garantis par l'État. J'aimerais qu'on revienne sur cet épisode avant la fin de cette émission parce qu'il s'est passé quelque chose de relativement inédit, là encore, qui liait, on va dire, politique monétaire et politique budgétaire. Il y a eu ces prêts garantis par l'État. Entre autres, il y a eu toute une machine, on va dire, qui s'est mise en place d'un point de vue budgétaire. De son côté, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a aussi mis en place une politique monétaire qui visait à faciliter finalement l'endettement des États pour soutenir leurs économies. Ce mix, et qui porte bien son nom, ce mix des deux-là, c'est ce qu'on a appelé le policy mix, c'était une situation qui a pu paraître inédite sur le moment. Est-ce que c'était la bonne solution que d'ouvrir les vannes des deux côtés? Et est-ce que cette façon, on va dire, d'orienter l'économie, de la soutenir aussi, peut être pérennisable, en dehors d'une situation de crise comme celle qu'on a connue avec la crise Covid?
Alors, la crise Covid, c'est une crise assez particulière, puisque en général, la politique monétaire et la politique budgétaire sont là pour régler ce qu'on appelle la demande agrégée, qui a des hauts et des bas. Et donc, en haut, on essaye de calmer pour pas qu'il y ait d'inflation, et en bas, on essaye de soutenir pour que l'activité continue et qu'on n'ait pas bêtement des entreprises qui disparaissent alors que c'est juste un trou d'air. Pendant la crise Covid, on n'était plus vraiment. Il s'agissait pas de soutenir l'économie, puisque en fait,
c'est un choc exogène.
De soutenir la demande, puisque de toute façon la demande, il n'y avait pas d'offre en face, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, c'était plutôt pour sauver l'instrument de production, en se disant, s'il disparaît, si les entreprises disparaissent, ça va prendre très longtemps pour le reconstruire. Donc, on était plutôt dans cet esprit-là. Moi, c'est le moment où je suis arrivée au Trésor, en 2020, au printemps 2020. C'est d'ailleurs assez particulier. La première fois que je faisais de la prévision. C'était moins 8%. Tout était négatif, sauf la dette qui était en positif et le chômage en positif. Il n'y avait pas de chiffre après la virgule dans les prévisions de croissance. Il faut se rappeler cette période-là qui était assez angoissante. Ces aides multiples ont été mises en place. Les économistes ont été utiles. On a fait tourner des modèles de micro-simulation. Donc, en prenant les comptes des entreprises qui sont connus, on n'avait pas la toute dernière version, on n'avait pas les derniers comptes, mais on avait les avant-derniers qu'on faisait vieillir et on faisait des chocs calés sur ce que disait l'INSEE, sur les chocs par secteur. Et puis, on faisait des hypothèses sur la part des coûts fixes, des coûts variables. Et on faisait des simulations pour différents types de mesures de soutien. Et quelle était la proportion d'entreprises qui seraient en risque, de faillite. Et donc, ça nous a servi pour calibrer les instruments budgétaires de soutien pendant le Covid. En parallèle, en effet, la Banque Centrale Européenne, en fait, quand vous avez une disparition de l'économie, vous avez aussi des risques sur les banques, des risques sur les prix, la déflation, etc. Donc, il y avait aussi une activité côté politique monétaire. Après, on a enchaîné avec la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, économie des sanctions, pour moi, c'était un peu un choc en tant qu'économiste, parce que j'avais étudié beaucoup les gains au commerce international, à l'ouverture, et d'un seul coup, on nous disait « Ah, mais trouver des mesures qui font le plus de mal possible à la Russie. »
Ce qui est un renversement, effectivement, de perspective.
Voilà. La théorie économique a été vraiment très utile aussi pour ça. Par exemple, très vite, on a compris que le marché du pétrole est un marché mondial, alors que le marché du gaz est un marché local. Et donc, on pouvait avoir des effets très forts des sanctions sur le prix du gaz, mais pas tant que ça sur le prix du pétrole. Et c'est ça qui s'est passé. Donc voilà un exemple où les économistes ont quand même joué un rôle. Après, il y a eu la crise énergétique. Et donc là, le policy mix est devenu... la Banque centrale s'est mise à monter les taux d'intérêt. Et on a eu en parallèle du soutien... des boucliers, du soutien budgétaire. Alors là, il y a beaucoup de discussions sur est-ce que c'était une bonne chose de faire ce soutien budgétaire. La réponse qui est donnée à la fois par les travaux de recherche à la Banque de France, mais c'est en cohérent avec ce que dit le FMI, c'est que plutôt oui au début. Donc ça a permis de réduire le taux d'inflation et donc la boucle prix-salaire. Parce qu'en fait, c'est un jeu répété. Et donc de favoriser la désinflation... mais en théorie, quand même, quand vous faites un soutien budgétaire, vous avez un effet demande qui va faire monter les prix. Donc probablement, la grande difficulté qu'on a eue, c'est de retirer les aides quand les prix de l'énergie se sont retournés. Rappelez-vous, encore en février, les prix de l'électricité va baisser. Le gouvernement voulait remettre les taxes au niveau de avant la crise et c'est très difficile.
Agnès Benassi-Kéré, avant que cette émission ne se termine, il y a une question que je voulais vous poser. Il y a une autre crise qui est en cours, alors qui dit peut-être un peu moins son nom, mais c'est celle du réchauffement climatique, qui va aussi nécessiter un certain nombre d'investissements. Dans quelle mesure, à la fois la Banque Centrale Européenne, mais aussi la Banque de France, dans le sens où elle est une banque centrale au niveau national, peuvent aider à préparer le tissu économique à ce genre de bouleversement venu de l'extérieur, venu de l'environnement, et comment elle peut soutenir justement les investissements nécessaires. Et vous avez 30 secondes.
Oula. Alors, la Banque Centrale Européenne a un mandat qui est la stabilité des prix et puis aussi la stabilité financière. Donc, on pourrait dire, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Réponse, c'est pas vrai. Le réchauffement climatique et la transition ont un impact et sur les prix et sur la stabilité financière. Et donc, la BCE, la Banque de France sont à fond sur l'étude des implications du réchauffement sur les mandats. Et maintenant, ce n'est pas le rôle de la BCE de mettre en œuvre des politiques qui vont faire la transition. C'est un accompagnement, faire en sorte que les financements soient là quand il faut, mais ça n'est pas la BCE qui va fixer le prix du carbone.
Merci beaucoup Agnès Benassikeri. On aurait pu aussi évoquer la question de l'union bancaire, entre autres, et puis de la supervision à l'échelle européenne, car ce sont des sujets d'importance face au choc de la compétitivité que Mario Draghi appelle de ses voeux. Mais ce sera l'objet d'une autre émission où nous aurons beaucoup de plaisir à vous recevoir. Merci d'avoir participé à cette émission, Agnès Benassikeri.